Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus là aussi nombreuses et nombreux. C'est impressionnant, enfin vu d'ici en tout cas. Donc, merci à vous, Frédéric Lordon, d'avoir accepté l'invitation. Et donc, vous êtes économiste, philosophe, chargé de recherche au CNRS, et vous venez de publier La condition anarchique, qui va donc être l'objet de la discussion ce soir. Donc, je vais commencer par poser quelques questions pour présenter un peu l'ouvrage. Et après, il y aura un moment de discussion avec vous. Donc, vous pourrez prendre la parole et poser vos propres questions. Voilà. Donc, la condition anarchique, selon vous, c'est notre condition à toutes et à tous. Mais l'anarchie, telle que vous l'entendez, est différente de celle de l'usage commun du mot qui est selon vous erroné. Est-ce que vous pourriez commencer par définir cette condition et aussi comment s'organise sa méconnaissance?
Alors, c'était pas juste pour le plaisir du jeu de mots, du malentendu ou de la publicité mensongère, hein, cette histoire d'anarchie. C'est pas tant que je juge l'usage commun du terme erroné, un peu si tout de même, mais... disons que ce que je voulais faire là, c'était tout simplement en revenir à l'étymologie du mot. Cette idée de condition anarchique me trotte dans la tête depuis un moment déjà, et en réalité, il était inévitable qu'elle trottât, parce que quand on s'adonne à la philosophie spinoziste, on tombe immanquablement sur sa philosophie des valeurs, car il y en a une, et on ne peut pas manquer d'en être frappé. Et déstabilisé même, mais ça c'est le lot commun de la lecture de Spinoza, hein, de toute manière, la déconcertation, le scandale parfois. Et là, Spinoza tire d'un coup sec le tapis axiologique sous nos pieds. C'est-à-dire, il nous explique que, en réalité, les valeurs n'ont pas de valeur. Ou plus exactement, dans la condition qui est la nôtre, celle qu'il appelle la servitude passionnelle, les valeurs n'ont pas de valeur. On va en parler, hein, on peut s'échapper en principe de la servitude passionnelle. Dans quelles conditions, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, dans ce domaine de l'existence humaine où, en effet, les valeurs n'ont pas de valeur, alors effectivement, nous vivons dans quelque chose qui mérite d'être appelé l'anarchie, au sens étymologique du terme, anarché. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas d'ancrage absolu, hein, il n'y a rien, nulle part, où ancrer nos valeurs. C'est-à-dire, en particulier, par quoi trancher nos disputes. Alors, comment ça se tranchera? Parce que ça se tranche, hein, à la fin des fins. Ça se tranche par d'autres voies. On va dire lesquelles? Oh, je peux le dire tout de suite, d'ailleurs. Ça va aussi vite. Puisque, d'une certaine manière, c'est ça qu'il y a dans votre question. C'est, il n'y a pas de valeur et pourtant nous croyons à des choses. Par conséquent, comment opère la croyance en nous? Comment se fait l'acquisition de la valeur et surtout son adhésion? Et la réponse spinoziste, sa réponse universelle en quelque sorte, c'est par les affects. C'est par les affects que se produit l'accroche de la valeur. Et il a un énoncé fulgurant qui est littéralement catastrophique au sens où il renverse les choses, il les met cul par-dessus tête, qui dit... En substance, nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est un bien, mais au contraire, nous ne disons qu'elle est un bien que parce que nous la désirons. Donc, vous voyez, ça renverse complètement le lien du désir et de la valeur tel qu'on se le représente spontanément. Le désir n'est pas réglé par des valeurs préexistantes, au contraire, il est l'instituteur de la valeur. Le désir est plus largement nos affects. Plus loin dans l'éthique, il dit que le bien et le mal ne sont jamais que des affects de joie ou de tristesse, l'inverse en l'occurrence. Accompagné de l'idée d'une cause, comme l'amour et la haine, en quelque sorte. Bon, alors, voilà, c'est la condition anarchique consacre, en quelque sorte, le pouvoir axiogénique des affects. Ce sont les affects qui produisent la valeur. C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à plus forte raison à l'échelle collective. S'il y a des valeurs sociales, c'est-à-dire des adhésions communes, c'est parce qu'il y a des affects communs. Et c'est ça qui soutient tout un ordre axiologique en dernière analyse. C'est le jeu des affects collectifs, opéré par ce que Spinoza appelle la puissance de la multitude, la potentia multitudinis, concept qu'on croit pouvoir entendre simplement, qui en fait est beaucoup plus retors qu'il n'y paraît. Enfin, vraiment, il donne des difficultés, m'a-t-il semblé, hein, pour le maîtriser convenablement. Donc voilà, c'est ça. Et alors, il se trouve que ce jeu des affects pose simultanément le problème et lui apporte sa solution. C'est-à-dire, le problème, c'est que effectivement, les valeurs n'ont pas de valeur, et pourtant, nous y croyons. Et nous y croyons, là je sais que je fous un peu le bazar dans le bel ordonnancement de vos questions. Je dois vous remercier, d'ailleurs j'en profite parce que vous avez travaillé comme un perdu, ça je m'en suis senti coupable, hein, mais vraiment, bon, donc vraiment merci. Et les affects, donc, posent d'une manière particulièrement aiguë ce problème de la valeur, et le résolvent doublement, en produisant l'adhésion, et en produisant l'adhésion envers et contre les apperceptions de la raison, quand il y en a. Par exemple, je fais un livre sur la condition anarchique, donc on pourrait estimer que j'y ai un peu réfléchi, et cependant, ça n'entraîne pas que tout mon paysage de valeurs se soit effondré pour autant. Je continue d'y croire, même lorsque je défends en théorie l'idée qu'il n'y a pas de valeur des valeurs. Bon, pourquoi ? Alors là, Spinoza nous donne la réponse, de nouveau. C'est un énoncé qui, à mon avis, qui est d'une force théorique vraiment extrême. Spinoza dit « La connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est vraie. » Mais, ajoute-t-il, seulement en tant qu'elle est considérée comme un affect. Je garde pour l'instant la première partie de l'énoncé, qui est tout à fait important, que Bourdieu d'ailleurs avait repris pour son propre compte en disant qu'il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies. Donc ne comptez pas sur la raison pour produire, ne comptez pas sur la prise de conscience rationnelle pour produire des remaniements de vos complexions, de vos comportements, etc. Puis vous le savez bien d'ailleurs, vous savez certainement rationnellement que fumez-tu, ça vous dissuade pas pour autant, etc., etc. Bon, c'est... Spinoza convoque Ovide dans un de ses scolies, et cette phrase qui dit « Je vois le meilleur et je l'approuve, je fais le pire ». Voilà, c'est ça, hein, la condition de la servitude passionnelle. Moyennant quoi, puisque finalement, ça cet énoncé, éthique 4.14, est décisif, puisque c'est l'énoncé qui dit la débilité de la raison. J'entends par débilité sa faiblesse relative, son impuissance en tant que telle à contenir le jeu des affects. Donc c'est une proposition normalement déprimante. C'est bien ce que dit Bourdieu d'ailleurs, quand il dit il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies. Il dit c'est sans doute la phrase la plus triste de toute l'histoire de la pensée. Ce qui n'est pas entièrement faux. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais qui n'est pas complètement vrai non plus. Et en l'occurrence, c'est vraiment ici, c'est dans cette question de qu'est-ce qui tient les ordres de valeur, qu'est-ce qui soutient les ordres axiologiques, que se révèle en quelque sorte la bonne part, entre guillemets, bonne au sens de adéquate à la condition qui est la nôtre, celle de la servitude passionnelle, où elle se trouve être fonctionnelle. C'est la bonne part de la débilité de la raison. Ça fait que nos affects axiologiques nous feront tenir à nos valeurs envers et contre nos apperceptions de la raison. Et finalement, c'est pas plus mal. Parce que sinon, effectivement, si on tirait la totalité du tapis sous les pieds, là, vraiment, il ne resterait plus rien. Mais la ruine d'un ordre axiologique, c'est la ruine d'un ordre politique tout court. Enfin, ça, c'est encore une autre question. On va reparler à l'occasion.
Vous en avez parlé un tout petit peu de la potentia multitudinis. Est-ce que vous pourriez un peu définir un peu plus précisément ce concept-là ? Vous dites à un moment donné dans le livre, il n'y a qu'un principe d'animation du monde social et c'est la potentia multitudinis. Et vous dites un peu plus loin aussi que c'est la banque centrale de la valeur, à part quoi il n'y a rien.
Il y a deux questions en une et ce ne sont pas des petites questions. Oui, la puissance de la multitude est le principe d'animation du monde social. C'est l'opérateur de ce grand mouvement qu'on appelle l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? L'histoire, c'est la succession des états par lesquels passent les corps sociaux au terme du travail qu'ils font sur eux-mêmes. Et en effet, ils travaillent sur eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils travaillent ? Qu'est-ce qui produit des effets ? Je veux dire, de toute façon, c'est toujours la réponse de Spinoza à cette question. S'il y a des effets produits, c'est qu'il y a une puissance à l'œuvre. Quelle est la puissance qui œuvre à transformer le collectif, qui œuvre à transformer les groupes ? Ça ne peut être que la puissance du groupe en dernière analyse. Donc c'est la puissance de la multitude. Et par exemple, c'est vrai que c'est très... Ça charrie des questions qui sont extrêmement, extrêmement profondes, tout ça. Par exemple, si vous voulez, la potentia multitudinis, c'est la force propre du collectif. Je dis du collectif, c'est-à-dire pas de la collection. La collection, c'est pas pareil que le collectif. Et s'il y a un collectif, il y a une puissance collective, et s'il y a une puissance collective, alors elle s'exerce nécessairement. Elle s'exerce nécessairement, et cet exercice prend la forme de ce qu'on peut appeler des institutions, au sens très très large du terme. Vous voyez, dans cette histoire, institution, c'est pas seulement l'État français, le feu rouge, la sécurité sociale, etc., etc. Mérite d'être appelé institution tout ce qui est de l'ordre de la manifestation du collectif et de sa force propre, c'est-à-dire de son pouvoir d'autorité. Oui, ici le mot autorité est à comprendre au sens de Durkheim. C'est le lieu de tous les malentendus, cette question de l'institution, pour plein de raisons. D'abord parce que, en définitive, le concept en est rarement produit. Et là, il me semble que Spinoza nous permet de le faire, et c'est sans doute un progrès. Donc moi, j'appelle institution. J'ai toute une palanquée de définitions évidemment équivalentes sous la main. Institution, c'est un produit de la potentia multitudinis. Deuxièmement, institution, c'est un affect commun cristallisé. Troisièmement, institution, c'est le travail que la société fait sur elle-même, localement et temporairement stabilisé dans une forme. Voilà, donc le travail d'auto-affection, le travail d'auto-modification de la société se stabilise temporairement dans des formes qu'on peut appeler des institutions. Par conséquent, je dirais, une institution, c'est un cristal de potentia multitudinis. Voilà. Ça peut être une définition de l'institution. Et alors là-dessus, vous me dites, pardon, je sais que tout ça est extrêmement abstrait, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux. Et là-dessus, vous me dites, ah oui, la multitude et sa puissance, c'est la banque centrale de la valeur. Bon, alors c'est un problème dérivé, mais c'est un très beau problème, ça. Moi, j'avais beaucoup été frappé en lisant Bourdieu. Je pense que c'était dans ce livre qui s'appelle « Raison pratique », qui doit dater de 1994, où il y avait un chapitre sur l'État qui prolongeait sa théorie du pouvoir symbolique et où il disait quelque chose comme « L'État, c'est le prêteur en dernier sort de capital symbolique ». Bon, alors moi, j'ai fait un peu d'économie avant, donc forcément, ces choses-là me parlent, etc., etc. Et puis ça reste dans un repli du cerveau reptilien. Puis alors des fois ça fait résurgence, on ne sait pas comment. Bon, et là en l'occurrence, toute cette histoire a fait résurgence à la faveur d'une lecture pas du tout théorique, d'un livre de littérature dont je me sers, enfin je me sers de plusieurs, mais celui-là je m'en sers particulièrement, qui est le livre d'une jeune romancière qui s'appelle Sandra Lucbert, et le roman s'appelle La Toile. Et dans ce roman, qui en réalité a fondamentalement à voir avec ce problème de la condition anarchique, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu, mais alors peut-être comme le Fada qui a un marteau et qui voit des clous partout, ça c'est pas exclu non plus, mais pour moi, ça m'a parlé de bout en bout parce que j'y voyais ça tout du long. Et en particulier dans une scène qui m'a semblé extrêmement impressionnante, qui est une scène de destitution. Comment tombe un pouvoir symbolique? Bon, un pouvoir symbolique tombe, le pouvoir d'un véridicteur tombe quand son crédit s'effondre. Bon, vous voyez, crédit, banque centrale, tout ça commence à se parler. Et en effet, qu'est-ce qui fait un pouvoir véridictionnel? C'est-à-dire un pouvoir d'asserter la valeur. C'est le fait que le locuteur est crédité, et par la crédible. Crédité le plus souvent par adossement à une institution elle-même créditée et par suite à son tour créditrice. Donc, si vous voulez, c'est ça le point. C'est que Il faut toujours avoir été crédité pour être créditeur à son tour. Il faut avoir été crédité pour détenir un pouvoir de véridire la valeur. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est extrêmement simple. Un économiste, au hasard, lance un énoncé dans l'espace public. Et on le croit. Pourquoi est-ce qu'on le croit ? On le croit parce qu'on le croit sur sa bonne mine d'économiste. On le croit parce qu'il est détenteur d'un certain nombre de certificats qui attestent son adossement à une institution créditrice qu'on appelle l'université, par exemple. Il a un doctorat ou une agrégation ou quelque chose comme ça. Bon. Et l'université elle-même, si elle est créditrice, c'est qu'elle a été créditée. Par quoi ? En l'occurrence, par l'État. C'est l'État qui certifie la valeur des titres universitaires en dernière analyse. Et c'est parce qu'il semblait à Bourdieu que la chaîne de l'adossement, la chaîne du crédit créditeur et crédité, remontait et s'arrêtait en l'État. Mais en réalité, l'État, comme toute institution empirique, a besoin lui aussi d'être crédité, pour être créditeur à son tour, pour créditer tout ce qu'il y a dans la... tout ce qu'il y a dans la hiérarchie de l'adossement qu'il domine, dont il occupe la position supérieure. Alors, qu'est-ce qui crédite l'État ? Et la réponse, c'est la multitude, qui ne le sait pas en général, évidemment. Mais c'est la multitude qui fait le pouvoir politique, symbolique et véridictionnel de l'État. Donc, c'est la multitude qui est la banque centrale, c'est-à-dire l'instance au-dessus de laquelle, littéralement parlant, il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, ce que fait ce livre, entre autres, c'est une théorie de la banque. C'est une théorie des institutions de crédit, mais des institutions de crédit symboliques, dont le point le plus haut est effectivement occupé par la multitude, en toute méconnaissance de cause d'ailleurs. Mais en dernière analyse, ce qui tient toute la chaîne véridictionnelle, toute la chaîne des institutions de crédit, c'est l'investissement par la potentia multitudinis, c'est l'affect commun. Et alors là, l'affect commun, eh bien, lui-même, à quoi tient-il ? Il tient à rien. Il tient à lui tout seul. D'ailleurs, c'était ça, c'est ainsi que la question directrice de ce livre s'est formulée dans mon esprit. C'est comment tient une société qui ne tient à rien ? Comment tient un ordre axiologique qui n'a pas d'ancrage, donc qui ne tient à rien ? Et pourtant, ça tient. Et ça tient par un phénomène tout à fait drôle, en réalité, qui est la généralisation au social de l'effet Munchausen. Vous savez, le baron qui se sort de la vase en tirant lui-même sur ses propres lacets. Alors c'est évidemment, ça c'est une physique fantasmagorique qui est réservée au conte, à la fable, à ce que vous voulez. Mais il se trouve que le social a le pouvoir de faire entrer la fantasmagorie de Munchausen dans le réel. Et c'est ainsi que les choses se passent dans l'ordre des valeurs. Voilà. Et c'est pour ça que, comme au-dessus du soleil il n'y a pas de nuages, comme au-dessus de la banque centrale il y a la monnaie centrale et rien finalement, qui fait la valeur de la monnaie centrale, sinon le pouvoir véridictionnel de la banque centrale elle-même, et bien de même dans l'ordre axiologique. Il n'y a rien au-dessus de la puissance créditrice de la multitude elle-même.
Alors, cette multitude, elle est évidemment pas uniforme, et les institutions dont vous parlez, elles sont le résultat d'une lutte des valeurs que vous appelez axiomachie. Vous le dites à un moment donné. Alors attendez. Et donc, en fait, il y a un champ de bataille qui est omniprésent, où aucune valeur ne saurait dominer les autres de manière totale et définitive, car vous dites aucun affect commun ne fait jamais vraiment l'unanimité. Ce qui a pour conséquence aussi, vous le dites un peu plus loin, que la politique, et heureusement, est une affaire sans fin. Du coup, je voudrais vous poser. Une question, c'est comment s'organise un peu cette lutte des valeurs ? Quelles en sont les règles ?
La règle est très simple. La règle qui ordonne l'issue des conflits chez Spinoza est toujours la même, c'est celle de la plus grande puissance. Comme il dit de manière un peu lapidaire dans le traité théologico-politique, les gros poissons mangent les petits. Donc si les valeurs tiennent par l'affect commun... Un affect commun qui, en effet, il faut que je commence par dire ça, hein, vous avez raison, un affect commun qui n'est nullement synonyme, en dépit de l'appellation, qui est nullement synonyme ni d'unanimité, ni d'homogénéité. C'est l'un des malentendus qui afflige le plus régulièrement tout ce que j'ai élaboré à partir de l'affect commun et en particulier dans le domaine politique autour de la souveraineté de l'État. Des lectures rapides et peu précautionneuses comprennent le monde de l'affect commun comme un monde d'unanimité écrasante, enfin, sans le moindre degré de liberté. Bon, évidemment, il n'en est rien. Il y a un énoncé qu'on lit presque sans s'en rendre compte dans le traité politique, qui est un livre faussement facile. Hein. En général, il faut se méfier des livres de philosophie qu'on croit facile à lire. C'est ceux qui recèlent peut-être le plus de difficultés, enfin le plus de pièges inaperçus. Bon. Spinoza, il dit « Le glaive du roi, ou son droit, est la volonté de la multitude ou de sa partie la plus forte. Ce qui fait le pouvoir du roi, son pouvoir politique, son pouvoir symbolique, c'est l'investissement par la multitude ou par sa partie la plus forte. Ce qui signifie qu'il y a une partie la moins forte. Ce qui signifie que les courants de la puissance de la multitude sont fractionnés et parfois antagonistes. Et oui, en effet, leur rencontre antagonique donne lieu à ce que j'appelle une axiomachie, c'est-à-dire une lutte pour la véridiction, une lutte pour l'assertion des valeurs. Bon, alors, en effet, les luttes... enfin. Les luttes axiologiques vont se départager à l'affect commun ou au sous-affect commun le plus puissant. Bon. Ce sont les gros bataillons passionnels qui l'emporteront sur les petits. Alors, gros bataillons passionnels, ça ne veut pas dire forcément les bataillons les plus nombreux. Hein. C'est ça qui est important de comprendre. Regardez, par exemple, prenez l'ordre axiologique qui correspond à l'ordre néolibéral. Oh, vous voyez, à l'évidence, cet ordre axiologique n'a pas été porté par le plus grand nombre. Il a même été porté par une minorité remarquablement étroite. Mais cette minorité remarquablement étroite a sous la main des ressources que la majorité n'a pas. Quelles ressources ? Des ressources institutionnelles. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à l'instant. Les institutions, ce sont des cristaux de potentia multitudinis. C'est de l'affect commun cristallisé. Alors oui, si vous avez des institutions derrière vous, même si vous êtes peu nombreux, ça peut suffire à faire la différence. Ça peut suffire à l'emporter dans une lutte de valeur, dans un combat axiologique. Alors qu'est-ce que c'est les institutions ? Ah, c'est facile, hein ? C'est la presse, c'est une certaine organisation des institutions politiques qui ont pour effet de sélectionner toujours les mêmes, c'est l'université qui bourre les crânes, c'est l'école qui fait pas mieux, etc., etc. C'est ça des institutions, hein ? Voilà, ça c'est des institutions, ça c'est des, si vous voulez, c'est des réserves de potentia multitudinis cristallisées que les pouvoirs ont de leur côté et grâce à quoi ils peuvent imposer leurs lois, je veux dire leurs normes, quoique étant tout à fait minoritaires. Voilà, donc ça c'est un point très important à comprendre. Les gros bataillons passionnels, ça ne se joue pas uniquement au nombre, hélas, sinon l'affaire serait vite entendue hein, d'ailleurs. Et alors bah, ça n'empêche pas que des luttes ont lieu et que des fois, des retournements peuvent se produire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? Bah, pas grand-chose, parce qu'il faudrait voir en situation. Il faudrait examiner des cas pour voir comment ça se passe, un retournement de valeur. Donc là, il faudrait procéder à ce que j'appelle la clinique passionnelle des situations particulières. On prend un cas, et puis on a les instruments, on a le cadre théorique général, et puis on désosse pour voir comment ça a joué particulièrement. C'est-à-dire... comment se sont formés les différents rassemblements d'affects, comment ils ont lutté, comment l'issue de leur conflit a été déterminée, dans quel environnement de ressources, d'institutions, etc., etc. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai. D'ailleurs, de toute manière, c'est même plus qu'une évidence, c'est une trivialité. Enfin, l'histoire l'atteste. Les valeurs changent. Bon, voilà. C'est donc qu'il y a eu des combats pour en destituer certaines, pour en promouvoir d'autres, et que parfois ces combats ont réussi.
Alors dans cette lutte, vous en parlez un peu dans votre livre pour aller un peu plus dans un détail. Il y a un outil qui est nouveau et qui a un peu modifié l'axiomachie. Ce sont les réseaux sociaux. Mais vous dites qu'ils n'ont pas bousculé tant l'autorité que les régimes d'autorité hérités du passé. Ma question c'est simple, c'est comment les ont-ils bousculés? Et juste, vous dites aussi que, en fait, avec eux, on assiste à une formidable accélération du processus d'accumulation et de déclassement du capital symbolique.
Autorité est un mot qui fait l'objet à peu près des mêmes malentendus conceptuels et des mêmes contresens que institution ou État d'ailleurs. Il y a ou souveraineté. Il y a deux manières d'entendre le mot autorité. Il y a la manière ordinaire qui est environnée d'images à base de souliers à clous, casques jugulaires et matraques, c'est-à-dire l'autorité comme pouvoir de coercition. Et puis il y a une manière plus conceptuelle qui est empruntée aux sciences sociales, qui remonte à Durkheim, et qui alors là désigne tout autre chose, mais qui est parfaitement adéquate au réseau des catégories qui sont mobilisées dans ce livre. L'autorité, c'est comme les institutions, l'autorité au sens de Durkheim. C'est le pouvoir normatif du collectif. Il faut comprendre l'autorité au sens de Durkheim au sens de ce qui fait autorité. C'est-à-dire ce qui fait autorité dans l'ordre véridictionnel, dans l'ordre de l'assertion, dans l'ordre des discours, et qui fait autorité d'une manière autre que en tapant sur les têtes. Bon. Alors c'est ça, l'autorité, c'est une manifestation du collectif. Ce qui fait autorité dans un collectif, c'est un certain contenu de valeur investi par un affect commun dominant. Voilà. Et l'affect commun dominant, c'est l'opérateur de cet effet d'autorité. Bon. Par conséquent, la déploration réactionnaire sur le thème de la crise des autorités ou de la disparition de l'autorité n'est pas autre chose que ce qu'elle est, une déploration réactionnaire, sans concept. Car l'autorité peut aussi peu disparaître que le collectif s'abolir, puisque l'autorité est coextensive au collectif. Le collectif produit des effets d'autorité, tout de même qu'il produit des affects communs et des institutions. Alors bon, ça c'est un point. C'est un point qui fait mon désaccord avec les philosophies de la destitution, celle d'Agamben en particulier, avec les pensées politiques qui s'en réclament peu ou prou, et qui ne voit pas que l'institution n'est pas une... Le fait institutionnel n'est pas une option. Il est un produit nécessaire de la puissance de la multitude. Il est le produit de la puissance de la multitude qui s'exerce nécessairement. Car le collectif, à l'inverse de la collection, le collectif est une chose au sens de Spinoza, c'est-à-dire un mode. Et un mode, ça a une puissance. Par conséquent, ça produit des effets. Ça produit des effets parce que la puissance d'un mode s'exerce nécessairement pour produire des effets. Alors après, les effets que ça produit, ça peut être toutes sortes de choses extrêmement variables. Spinoza clôt la partie 1 de son éthique, qui est la partie proprement ontologique, par une proposition extraordinaire, qui est vraiment une sorte d'apothéose qui dit la chose suivante. Nulle chose n'existe dont la nature n'entraîne quelque effet. Voilà. Le fait d'exister et le fait de produire des effets, au terme de cette ontologie, sont deux propositions rigoureusement synonymes. Donc, si le collectif existe en tant que collectif, alors il produit des effets. Et ces effets ont nom, institution, ou souveraineté, ou autorité, selon l'angle sous lequel on les regarde, mais qui ont vaguement des rapports de synonymie, peut-être même plus que vaguement. Donc l'autorité ne saurait s'abolir, sauf si le collectif lui-même s'abolissait. Par conséquent, la seule chose qui est intéressante à cerner, c'est non pas sa disparition fantasmée, mais ce sont ces métamorphoses. C'est toujours c'est toujours pareil. Je veux dire, pour moi, le concept de forme est vraiment d'une importance décisive. C'est ce qui permet pour moi de sortir de toutes les problématisations désastreuses. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'État, pour ou contre les institutions, pour ou contre la frontière? Pour moi, ce sont des questions ineptes. Les seules questions intéressantes, ce sont les questions de forme. Alors, étant entendu que on aura fait la démonstration antérieurement, hein, n'est-ce pas, que des institutions, ça existe nécessairement, que de l'État, ce qui veut pas dire... De l'État, ça veut pas dire l'État français contemporain. De l'État, c'est compliqué, ça. Qu'est-ce que c'est, de l'État? Bon, enfin, que de l'État existera, etc. Bon. Voilà. Alors, eh bien, en effet, les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux, c'est une métamorphose dans l'économie générale de l'autorité. Et c'est le déclassement relatif de l'autorité des barbons. Je veux dire de l'autorité instituée, mais en un sens particulier, du moins instituée, en un sens restrictif. c'est-à-dire l'autorité enquistée dans des institutions formelles. Par exemple, vous êtes professeur, je veux dire, avant 68, vous étiez professeur, vous parliez avec autorité. Personne ne pouvait contester cette autorité. Bon, cette autorité-là, cette forme-là d'institutionnalisation de l'autorité, elle a pris du plomb dans l'aile. Bon. L'autorité du médecin, l'autorité des experts, l'autorité des hommes politiques, vous voyez, toutes ces autorités instituées là, en effet, se sont délitées, si c'est pas même complètement décomposées. Et ça, ceci ne suffit pas à dire qu'il y a une crise de l'autorité. Il y a une crise d'un certain régime historique de l'autorité. Ça, c'est certain. Dont toutes ces autorités instituées étaient parties prenantes, avec lesquelles elles avaient partie liée. Bon, oui, ça oui. Mais l'autorité, si elle se défait quelque part, elle va se refaire ailleurs. Et en particulier, là, elle se refait sur les réseaux sociaux. Donc on voit apparaître des gens sortis de nulle part qui, littéralement parlant, font autorité. Alors autorité pour dire ce que c'est que la mode, ce que c'est que le bon maquillage, ce que c'est que la bonne position politique, ce que c'est que... Je veux dire, vous voyez, ça se décline dans les innombrables compartiments de l'activité discursive des réseaux sociaux. Mais là, vous voyez des gens qui, tout d'un coup... émergent comme des accrétions de capital symbolique parce que précisément ils ont été investis par l'affect commun. Alors là, c'est vraiment comme le verbe. Vous voyez, au début était le verbe et l'esprit planait sur les eaux. Bon, ben là, c'est l'affect commun plane sur les eaux des réseaux sociaux. Et puis hop, ça précipite dans une entité quelconque, un YouTuber ou voilà. Mais le propre de ce nouveau régime historique de l'autorité, c'est son très haut degré de démédiatisation. Ça ne passe plus par des formes instituées formellement. Ça passe par autre chose. Là, on est vraiment confronté à l'extrême fluidité, donc l'extrême réversibilité des courants de l'opinion elle-même. Puisqu'en définitive, les courants de l'affect commun, les courants de l'opinion, tout ça, c'est la même chose. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est que... Il y aurait une analogie formelle à faire, et à mon avis, elle serait extrêmement... Bon, elle est un peu esquissée hein, dans le livre, mais elle serait vraiment intéressante. Il y aurait une analogie à faire entre les réseaux sociaux et les marchés financiers, parce que ce sont deux mondes de l'opinion démédiatisés relativement. Évidemment, les réseaux sociaux ne sont pas plus une atomistique que ne le sont les marchés financiers. Sur les marchés financiers, vous avez des agents dont... la parole pèse plus que celle des autres. Alors, on les appelle des analystes vedettes ou on les appelle des agences de notation. C'est des gens dont la parole est écoutée. Ce sont des gens qui font autorité parce qu'ils ont été investis par l'affect commun financier, etc., etc. Mais ces gens-là, ils peuvent être désinvestis à tout moment. Hein. Je veux dire, le pouvoir d'un gourou de la finance, ça peut s'écrouler aussi vite que ça s'est formé. Comme le pouvoir symbolique, comme le pouvoir prescriptif d'un YouTuber. Pareil. Parce que c'est pas fixé, vous voyez, c'est pas des milieux à cristallisation dure, ça, comme les autorités, comme les institutions formelles, comme les institutions instituées, si vous voulez, ce qui n'est pas un pléonasme. Donc oui, voilà, c'est ça, moi, qui me paraît tout à fait intéressant. D'ailleurs, c'est un point sur lequel j'avais rompu quelques lances. Je reviens à la question des marchés financiers hein, et des agences de notation. Vous vous souvenez peut-être que pendant la crise de l'euro, notamment la crise grecque, il y avait cet enchaînement épouvantablement vicieux dans lequel des agences de notation dégradaient les dettes souveraines des États membres, en particulier la dette grecque, ce qui entraînait un renchérissement du service de la dette pour ces malheureux Grecs, ce qui détériorait leur situation financière, ce qui conduisait les agences de notation à un tour de vis supplémentaire dans la dégradation, etc., etc. Ça devenait tellement épouvantable, cette histoire, que des gens ont fini par se dire « mais maintenant, ça suffit, les agences ». C'est les agences qui, en fait, qui pilotent cette dynamique abominable. Fermons les agences. Supprimons les agences de notation. Débarrassons les marchés financiers des agences de notation. Alors, c'était un mouvement compréhensible, mais qui faisait entièrement fausse route, bien sûr. C'était ne pas comprendre ce que c'est que la formation de l'autorité dans un monde de l'opinion. Supposée expérience de pensée, supposée qu'on ferme Standard & Poor's, Moody's, Fitch, etc. Mais dans l'instant, la puissance de la multitude financière se reconcentrera sur un nouvel élu, qui sera cette fois-ci alors un gourou personnel, dont la gourouité tiendra ce que tiendra l'affect commun qu'il a investi. Et puis après, ça ira à un autre, etc., etc. Mais l'autorité ne pourra pas disparaître, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Elle ne peut que migrer. Elle ne peut que migrer en changeant de forme. Donc on ne se débarrassera pas de l'autorité, on aura affaire à ces nouvelles configurations.
On va parler un peu d'un autre point que je voulais aborder, c'est la littérature, parce que dans la condition anarchique, elle a une place un peu nouvelle dans votre œuvre. Et en fait, il y a plusieurs auteurs que vous convoquez abondamment. Donc, vous avez parlé de Sandra Lucbert, il y a aussi Poe, Dostoïevski, Faulkner et Camus. Est-ce que c'est parce que c'est nulle part mieux que dans la fiction qu'on peut trouver les preuves de notre réelle condition anarchique?
D'abord, je vous remercie d'avoir vu ça. Parce qu'effectivement, pour moi, c'était une nouveauté. Je ne sais pas si je peux parler d'un point de bifurcation, mais peut-être bien. D'ici quelques années, je pourrais le dire avec plus d'assurance. Alors, comment ça se produit, les bifurcations? En gros, il y a deux manières. Il y a le fait qu'un lent cumul, parfois un peu inconscient, d'affection et de pensée en soi finit par passer un point critique. Et là, hop, il se passe quelque chose. Et l'autre manière, c'est une rencontre. Alors, Deleuze dit, mais il a tellement raison, que le spinozisme est une philosophie de la rencontre. C'est vrai. Alors, la rencontre éventuellement avec sa puissance bifurcante. Alors là, effectivement, j'ai cité Sandra Lucbert tout à l'heure parce que je pense que ce roman, La Toile, a été la rencontre qui a produit cette bifurcation et qui m'a décidé à regarder plus que je ne l'avais fait dans le passé du côté de la littérature. Et je dois dire qu'elle-même m'en a convaincu, puisque depuis son point de vue de romancière à elle et depuis son immense culture littéraire à elle, en finissant par me dire, mais en gros, la condition anarchique, c'est la grande affaire de la littérature. La littérature, c'est le lieu de la condition anarchique. Pourquoi ? Parce que la littérature a affaire à tout ce qui flotte, tout ce qui est mal fixé, tout ce qui dérape, tout ce qui glisse, tout ce qui est ambivalent. Enfin, le branle est l'affaire de la littérature, si vous voulez. Oui, c'est... Et alors, en effet, ça se voit presque partout dans les grandes œuvres. Donc, vous en avez cité certaines qui m'ont parlé à un point proprement inimaginable. Évidemment, plus ça va. Heureusement que je me suis arrêté à un moment d'écrire ce livre parce que sinon il aurait été en expansion indéfinie. Oui. Parce que chaque fois, plus le temps passe, plus je rencontre des choses à faire rentrer dans la cantine. Évidemment, on n'en peut plus à force. J'ai eu l'occasion de faire un entretien pour le site hors série de Judith Bernard. Et alors là, c'est plus de la littérature, mais elle a soumis à ma réflexion le film des Monty Python, La vie de Brian. Et La vie de Brian, c'est extraordinaire, ce film. Alors heureusement que je l'avais vu il y a longtemps, mais je l'avais vu sans point de vue, donc je m'en souvenais pas bien. Et là, avec un point de vue, évidemment, tout me parle à neuf. Alors La vie de Brian, c'est la condition anarchique au cinéma, et on rit beaucoup d'ailleurs. Bon, vous voyez. C'est tout à fait étonnant parce que, et puis ça invite à reconsidérer, vous savez, cette séparation un peu surjouée des grandes œuvres et des œuvres populaires ou je ne sais pas quoi. Enfin, La vie de Brian, bon, c'est un succès de cinéma, c'est pas du Robert Bresson, mais c'est d'une profondeur théorique, hein, j'ose le mot. Qui m'était proprement insoupçonnable. Alors, je pense que je ne suis pas tout à fait au-dessus du reproche de Deleuze qui disait que le pire usage qu'on puisse faire de la littérature, c'est de la convoquer dans une fonction illustrative. Et cependant, je pense avoir aussi réussi à ne pas le mériter complètement. C'est-à-dire, bien sûr, je m'en sers parce que ça rend des choses extrêmement abstraites, extrêmement parlantes, et que quand même, bon, surtout pour quelqu'un comme moi, ça ne manque pas d'avantages. Mais c'est également une manière de convoquer génériquement la puissance de la littérature, d'y renvoyer et de suggérer d'aller les relire éventuellement avec le point de vue qui est développé dans La Condition anarchique pour voir ce que ça fait. Et puis alors, là peut-être plus proche de la pratique de Deleuze en cette matière, il y a des œuvres qui non seulement n'ont pas joué dans le registre de basse intensité de l'illustration, mais qui ont littéralement produit des déclics, enfin des effets de percussion, c'est-à-dire qui ont initié pour moi de nouvelles chaînes de liaisons, des liaisons dans des directions auxquelles j'avais pas pensé, des manières de remanier le système général de liaison entre choses que j'avais déjà acquises. Et c'est pour ça qu'il faut faire cette expérience-là. Et c'est ça aussi la force propre de la littérature qu'il s'agissait en réalité de reconvoquer ici. Alors, il y a d'ailleurs un énorme chantier. Qu'est-ce que c'est que cette force propre? En quoi ça consiste? Comment ça joue? Bon, et très gros chantier, très tentant. Peut-être à venir. Bon, voilà. Donc, c'est effectivement... Alors, par exemple, oui, il y a cette scène dont je parlais, cette scène de destitution d'un capital symbolique jusqu'ici très bien établi, m'a conduit quasiment à faire un... Enfin, pas quasiment, m'a conduit à faire un chapitre supplémentaire qui n'était pas du tout prévu au départ, d'où est sortie toute cette salade que j'ai évoquée tout à l'heure, la théorie de la banque et des institutions de crédit. C'est venu de là, et sans crier gare, hein. Bon, alors évidemment, parce que ça a fait précipiter des choses qui étaient en moi depuis un moment, mais qui là ont trouvé à se réagencer d'une manière inédite, et que pour mon compte, en tout cas, j'ai trouvé vraiment féconde. Donc c'est une puissance à laquelle il faut s'exposer sans hésiter, ça c'est sûr.
Alors j'ai une dernière question avant de passer la parole au public. En fait, est-ce qu'au point, peut-on envisager de sortir de la condition anarchique de quelque manière que ce soit? Et aussi, puisque vous développez un peu, en quoi Spinoza peut être utile?
Réponse non. Non, mais peut mieux faire. C'est ça la réponse complète, hein, pour Spinoza. On ne peut pas sortir de la condition anarchique parce que la condition anarchique est coextensive de la servitude passionnelle. Et que de la servitude passionnelle, ça Spinoza nous le dit, nous ne sortirons jamais complètement. Alors, si vous voulez, dans cette histoire, il y a deux cas polaires. Il y a l'imbécilité heureuse d'un côté, et il y a la sagesse spinoziste ou la béatitude de l'autre. Bon, alors, je dis que ce sont deux cas polaires parce que ce sont deux cohérences stables. L'imbécilité heureuse est remarquable de stabilité. Qu'est-ce que c'est que l'imbécilité heureuse? C'est on adhère à des valeurs, on ne sait pas pourquoi, et en tout cas, on n'a pas l'idée de les chahuter. Ce sont des sociétés d'avant ces deux cas historiques sur lesquels Cornelius Castoriadis insiste si souvent, à savoir la Grèce du 5e siècle, avant Jésus-Christ, et les Lumières du 18e. Qu'est-ce que c'est que le propre dans l'histoire humaine de ces deux points historiques particuliers, hein, l'Athènes du 5e siècle ou la Grèce du 5e siècle et les Lumières du 18e? C'est l'entrée des sociétés dans le régime du questionnement, c'est-à-dire de la remise en cause, de la remise en jeu de leurs propres valeurs. Et c'est là qu'à proprement parler, enfin, c'est là qu'une histoire dynamique réellement prend naissance et s'initie, puisque les degrés de liberté du jeu axiologique sont rouverts et que évidemment ceci crée la possibilité du mouvement. Dans la configuration de l'imbécilité heureuse, cette possibilité du mouvement n'existe pas. La fixation aux valeurs est établie, est définitive et en quelque sorte inamovible. Alors à l'autre extrémité, on pourrait dire également d'ailleurs que l'autre pôle, celui de la sagesse spinoziste, on pourrait dire également qu'on a une configuration cohérente, stable et inamovible. Oui, elle est inamovible parce que... supposer qu'on l'atteigne, bon, c'est une expérience de pensée, donc, les hommes sont tous sous la conduite de la raison, par conséquent, ils ont réglé le problème de la valeur et ils l'ont réglé en sortant, c'est-à-dire en dépassant le problème du bien et du mal, car telle est l'opération que réalise la raison. La raison fait voir la relativité des valeurs et engage l'existence humaine dans un régime qui en est affranchi. Et qui est réglé par de toute autre considération, celle de la perception en raison de la nature réelle des choses. Et dans ce nouveau régime, les catégories du bien et du mal, du juste et de l'injuste, etc., etc., tombent. On vit dans un autre système de catégories. Alors ça aussi, c'est une configuration inamovible, puisque, littéralement parlant, et en tous les sens du terme, on n'a plus de raison de bouger. Bon. Donc les deux cas polaires. Le problème, c'est entre les deux. C'est le problème qui se pose particulièrement pour nous, puisque, comme l'a remarqué Castoriadis, nous sommes dans un régime où nous nous sommes extraits de l'opacité complète à notre propre pratique. Nous avons à l'idée que les valeurs peuvent être déplacées, donc que leurs ancrages ne sont pas absolus, et que tout ceci crée une espèce de trouble qu'il faut bien réussir à accommoder d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Alors maintenant, quant à savoir si on peut cheminer vers ce que les économistes appelleraient l'équilibre haut, si vous voulez, donc vers l'équilibre de, vers la configuration cohérente et stable de la raison. Bon, alors ça, c'est une question qui est vraiment très compliquée, Je ne sais pas si je vais l'aborder maintenant, ça m'embarquerait dans un développement infernal. Si vraiment je suis poussé dans les cordes, je me ferai une raison là pour le coup. Mais évidemment, c'est compliqué. Pourquoi ? C'est compliqué, mais c'est très simple. J'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui nous permet d'adhérer aux valeurs en dépit ou envers et contre nos aperceptions de l'absence de valeur des valeurs ? Et la réponse, c'était les affects. Bon. Et le fait est, en temps ordinaire, nous sommes sous l'emprise de nos affects. Par exemple, si le philosophe de la condition anarchique assiste à une scène dans la rue qu'il trouve particulièrement odieuse ou répugnante, etc., il va pas commencer à rentrer en mode moulinette, y a-t-il une valeur des valeurs, il n'y a pas de valeur, il n'y a que des processus de valorisation. Non. C'est son corps qui va parler tout de suite, parce que c'est ça, hein, oui, ça c'est. Ben, je sais que vous l'aviez dit, mais bon, j'ai skippé. On en parlera peut-être après. Le jugement, c'est une affaire de corps. Je veux dire, les principes du jugement, ce sont des plis qui sont dans nos corps. Ça joue tout seul. Vous le savez bien d'ailleurs, lorsque vous êtes confronté à une situation très intense, c'est plus fort que vous, comme dit l'expression, et ça part tout seul sans avoir réfléchi, quoi. On juge spontanément. Peut-être, le cas échéant, dans un second temps, on va reprendre son jugement, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, l'homme est un automate herméneutique. Le jugement n'est pas sous l'emprise de, n'est pas sous la commande d'un esprit souverain, comme rien d'ailleurs dans la philosophie de Spinoza. Ce sont les plis du corps et leur ressort propre qui jouent spontanément. Bon, voilà. Maintenant, si vous commencez à passer une part croissante de votre temps à réfléchir au problème de la condition anarchique. Alors évidemment, cette idée pourrait s'installer dans votre esprit et y devenir entêtante. C'est-à-dire y occuper une place telle qu'au bout d'un moment, le jeu des affects ne serait plus suffisant pour produire vos adhésions antérieures. Alors, je ne vous cache pas que ça vous met dans un mauvais cas. Forcément. Et de même pour les corps sociaux. Parce qu'on voit bien, on progresse en quelque sorte en raison, mais en même temps, on abandonne les sûretés des ancrages axiologiques passionnels. Donc il y a une période de transition qui est d'une extrême délicatesse, dont on ne sait absolument pas comment elle peut tourner, et dans laquelle il y a compétition entre, d'un côté, la déstabilisation qui vient de la perte des ancrages passionnels des valeurs, et de l'autre, les bénéfices affectifs, car il y en a, d'une vie qui est de plus en plus sous la conduite de la raison. J'ai dit de bénéfices affectifs et non de bénéfices passionnels, car en l'occurrence, quand la vie entre un peu plus sous la conduite de la raison, ce sont des affects actifs dont elle fait l'acquisition, et non pas des affects passifs. Des affects actifs chez Spinoza, c'est ça qu'il nous faut cultiver impérativement. Mais vous voyez, là, il y a une espèce de course de vitesse entre la perte des ancrages hantés et la restabilisation affective qui peut naître d'un progrès en soi ou en nous de la raison. Et ça, c'est un processus dont les issues sont tout à fait indéterminées. Du reste, on le voit bien, hein, y a des corps sociaux qui regimbent à la déconstruction des valeurs. Je veux dire, ça prend des formes en général pas belles, hein, politiquement, des formes restauratrices et réactionnaires même. mais réactionnaires parce qu'elles sont réactionnelles. Bon, c'est, voilà, d'autres questions qui sont très vastes.
C'est à vous.
Alors, un, deux, et trois.
Moi, je voulais poser une question à Frédéric concernant un ancrage axiologique qui me paraît vachement important et dont vous parlez dans le bouquin, c'est Marx. Marx qui joue un rôle essentiel dans la pensée de gauche depuis deux siècles. Et il y a un ancrage axiologique du discours de gauche autour du discours économiste de Karl Marx sur la survaleur, sur la notion de valeur travail. Et quand on lit la condition anarchique, on est tenté de tout balancer par-dessus bord. Donc en fait, la question est très simple, c'est comment est-ce qu'on peut réhabiliter ce discours dans des formes qui seraient conformes au logiciel anarchique.
Je vais prolonger la question dans le fil marxiste. Pourquoi substituer une ontologie des affects à une ontologie de l'argent? Parce que si on se réfère au capital, Marx, d'une certaine manière, est un spinoziste conséquent, puisqu'il nous dit que la substance de toute chose, c'est l'argent. Donc pourquoi ce renversement? Et deuxième question, comment est-ce que vous penseriez, à partir du dispositif de la condition anarchique, des événements qui signifient proprement le néant dans l'histoire? Pour vous donner une idée de ce que je veux dire, je pense notamment à des textes d'Adorno sur la fin de la métaphysique et l'avènement d'un néant dans l'histoire. Comment vous penseriez ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait dire que la reconstruction d'un ordre axiologique qui a subi un effondrement passe par des affects? Je veux dire, si on pense à des choses comme Auschwitz ou des choses comme par exemple la fin du régime franquiste en Espagne qui a fait l'objet d'une transition. Est-ce que vous pensez que ceci est pensable à partir d'une recomposition d'affects ou quelque chose comme ça?
Oui, je trouve très intéressant. Et en bas, il y a un épicerie chez moi, et il y a un épicier, je descends, je dis alors, comment ça va? Et il me fait la description du monde. Mais vraiment bien. Et je dis bien, dans le sens qu'il fait vraiment une bonne description. Et il m'explique ça, là, lui, il achète ça, il aime pas ça, la valeur de l'argent et tout ça. Bon. Et je dis, c'est une vraie bonne description. Problème. C'est le point de vue du distributeur. C'est lui qui voit le monde à partir de l'organisation de la distribution. Alors, tout ça c'est bon, tout ça c'est vrai, mais c'est un point de vue. D'accord? Si je vais, par exemple, dans la banlieue de Milan, et je parle avec un ouvrier de Sesto San Giovanni, et je lui dis, dis-moi comment tu vois le monde. Eh bien, lui, il me fait une description très différente. Tout ce que vous avez dit, excusez-moi, mais vous avez fait des catégories lexicales et conceptuelles un peu différentes, mais la question de l'autorité, tout ça, en Italie, on connaît bien, c'est Antonio Gramsci qui l'a tout expliqué, la question de la superstructure, la question de la culture, et donc des affects, par rapport à ce qui m'explique l'ouvrier de Milan. Il manque la douleur, la souffrance des conditions de production. Et ça, le distributeur Spinoza, il ne pouvait pas les comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Spinoza, il voyait le monde en tant que commerçant. Mais ce n'est pas parce qu'il était méchant, ou parce qu'il y avait des affaires particulières, parce que les autres parties, peut-être, par rapport à sa condition, il ne pouvait pas les percevoir.
Thank you.
Alors, pour moi, c'est plus un exercice de pensée qu'une question. Il y a certains experts, justement, on en parlait, notamment par rapport au milieu financier, qui estiment qu'en ce moment, il y a une bulle des banques centrales, justement. Si on fait le parallèle avec les affects et le crédit d'affect, donc si on part sur l'hypothèse d'un effondrement des banques centrales, a priori à venir, enfin en tout cas une dégradation, et qu'on fait un parallèle avec les affects, la question c'est où est-ce que vous pensez que les affects vont se reconcentrer, où est-ce que c'est l'exercice de pensée, c'est ça, où vont se recréditer la puissance collective après un effondrement financier.
D'abord il y avait une ici devant et il y a
Le portefeuille commence à ployer là. Écoutez, je vais les prendre dans le désordre. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, le point de vue. Ah, où il est notre ami Milanais? Il est au fond, il est reparti là-bas. Bah oui, ça, grand lâche. Spinoza ne pouvait pas comprendre les affects de la production. Bah oui, c'est vrai. Il n'avait pas le capitalisme sous les yeux. Enfin, il n'avait pas le capitalisme industriel sous les yeux. Donc ça, on peut difficilement lui en faire le reproche. On peut lui en faire certains. C'est pas moi qui dirais le contraire. Il y a vraiment un truc qu'il n'a pas bien négocié avec les femmes, hein, Spinoza. Ça, c'est manifeste. Ce qui est dommage, d'ailleurs, c'est qu'il est mort au milieu d'une bouse. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la foirade de Spinoza et il est mort au milieu de la phrase, quasiment. Bon. Mais quant aux affects du capitalisme, non, ça on peut pas lui en faire le reproche. Est-ce que ça diminue la puissance de sa construction théorique? Pas le moins du monde. Justement, c'est ça la force de la chose. C'est que, évidemment, rien ne serait plus injuste ou plus sot que de considérer que la philosophie de Spinoza nous donne une théorie totale et définitive de tout. Mais non, mais évidemment, il ne peut pas en être question. Du reste, c'est bien pourquoi moi je suis engagé dans un programme dont d'ailleurs j'ai de plus en plus de difficultés à indiquer la qualité réelle, enfin je veux dire à donner la nomination pertinente. Mais ça, c'est la faute de mes étudiants. J'ai tombé sur quelques fortes têtes ces derniers temps, et qui m'ont convaincu que lorsque je me laissais à dire que je fais une science sociale spinoziste, il y avait matière à discuter. Et ma foi, ils n'ont pas totalement tort, hein, les bougres. Donc, mais là, si vous voulez, ils me laissent au milieu du gué. Hein. Je suis entre deux eaux, donc je ne sais plus trop comment parler de ce que je fais. Donc, c'est un peu un problème. Pas complètement non plus, parce qu'après tout, on peut se passer un moment de se qualifier soi-même. Mais sous la réserve que je viens de faire, le sens véritable d'une science sociale spinoziste ou de toute autre chose de la même famille mais plus convenablement nommée, c'est tout de même de combiner la puissance des concepts du spinozisme avec, disons, les meilleurs acquis des sciences sociales, pas de n'importe quelle science sociale, bien sûr, sous une contrainte de rapport de compatibilité qui s'examine cas par cas. Bon, moi j'ai mes têtes. Donc Marx, Bourdieu, Durkheim, Mauss, certainement on pourrait en citer d'autres. Hein. Bon, bien sûr, je vais pas faire un tour exhaustif de tout ça, mais voilà. Alors là il y a des bonnes combinaisons. Il y a des bonnes combinaisons et par exemple, ça nous permet de faire parler les concepts de Spinoza sur certaines matières que ces auteurs-là ont manipulé, et alors là, pardonnez le moment de forfanterie, mieux que ces auteurs-là ne l'ont fait. Je pour rien, ça c'est la puissance propre des concepts de Spinoza. Alors en particulier, moi, l'un des travaux dans lesquels je suis engagé consiste à refaire en quelque sorte une économie politique critique, une économie politique du capitalisme sur la base de ces concepts de Spinoza. Donc de reprendre à nouveau frais, à frais spinoziens, une théorie du rapport salarial, une théorie de la valeur financière, une théorie de la monnaie. Donc là, il y a plusieurs questions hein, là qui vont se croiser. Bon, donc Spinoza n'est pas mis en échec par le fait qu'il y a eu derrière lui le capitalisme, qu'il était hors d'état de le penser. Simplement, il a livré une construction théorique dont la puissance réside dans sa sous-détermination relative. C'est-à-dire dans le fait qu'elle est susceptible d'accueillir énormément de compléments théoriques qui lui donneront ses réalisations particulières, contemporaines, etc. C'est ça la force de la chose. Bon, et bon, je veux dire, moi, les quelques exercices auxquels je me suis adonné en cette matière m'ont montré que c'était pas des espoirs trop mal placés dans cette histoire. Donc, bah oui, on peut faire une théorie passionnelle du rapport salarial, une théorie qui prend en considération, en effet, la souffrance dans les rapports sociaux de production du capitalisme, et pas que la souffrance d'ailleurs, puisque précisément, le capitalisme envisagé, pas seulement comme une structure de rapports sociaux fondamentaux, comme dit Marx, mais dans sa doublure de rapports passionnels, dans sa doublure de régime de désir et d'affect, ce capitalisme-là n'a pas cessé de se métamorphoser lui aussi, et de renouveler son régime passionnel. Bon, alors là, voilà, il y a des choses qu'on peut dire, que Marx ne pouvait pas dire, et il serait inepte de lui faire le reproche symétrique, bien sûr. On ne peut pas demander à quelqu'un, si grand penseur soit-il, de tout faire. Bon. Moi, pour tout vous dire, dans les nombreux chantiers que j'ai sous la main, il y en a un dont l'intitulé serait « Spinoza, l'anthropologie manquante de Marx ». Je considère qu'il manque à Marx une anthropologie, et que ce qui lui manque particulièrement, c'est pas seulement une anthropologie, mais une anthropologie du désir. Du désir et des passions. Voilà, donc tout ça peut très bien se rencontrer. Alors, oui, sur la question de... bah oui, c'est vrai que le spinozisme a des rapports de compatibilité, mais limités avec le marxisme, parce qu'il y a des points, il y a des points d'écart, il y a des points de discord, comme on en trouverait d'ailleurs avec Freud et la théorie psychanalytique. Non. Et le point de discorde principal, alors là, pour le coup, qui a à voir avec ce qui est développé dans la condition anarchique, c'est évidemment la théorie de la valeur. Alors je sais que cet ouvrage, comme d'ailleurs des choses qui étaient dites dans Capitalisme, désir et servitude, va avoir le don de dégoupiller les marxistes de stricte obédience. Et je peux pas leur en vouloir, puisque ce que je leur saborde, c'est la théorie de la valeur. Or, c'est particulièrement décisif dans la pensée marxiste, la théorie de la valeur. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui fonde la théorie de l'exploitation. Plus de théorie de la valeur travail chez Marx, plus de théorie de l'exploitation. Donc effectivement, il faut y regarder à deux fois pour... non mais ça bien sûr, mais je viens d'en parler de ça, des rapports de production. Évidemment, mais enfin il y a quand même... la théorie de la valeur, c'est le chapitre 1 du livre 1, n'est-ce pas ? Bon, donc c'est pas un hasard si ça vient en tête de gondole, cette histoire. Bon, voilà, donc c'est quand même décisif, la théorie de la valeur, en tant que ça fonde la théorie de l'exploitation. Et on a l'impression que si on perd la théorie de la valeur, on perd celle de l'exploitation, et par conséquent on perd toute la force critique du marxisme. Bon, alors, oui, mais non. Ce que j'avais essayé de faire dans Capitalisme, désir et servitude, et c'est pour ça que ça m'avait offert une première occasion de poser ce problème de la valeur, c'est effectivement de reconstruire une théorie de l'exploitation, pour le coup basée sur une analyse mais passionnelle des rapports sociaux de production, mais qui ne passe pas par la substance de la valeur, alias le temps de travail abstrait. Bon, alors, mais évidemment, pour renouer ce type de compatibilité, ça suppose tout un travail conceptuel, tout un travail théorique. Par exemple, alors, bon, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais vous avez peut-être déjà à l'idée que si Spinoza récuse les catégories du bien et du mal, alors il nous prive d'une théorie de la justice. Ça peut être très embêtant tout ça, parce que la théorie de la justice, c'est aussi l'un des socles possibles d'une posture, d'un discours critique dans la société capitaliste. Bon, là aussi, il faudrait, je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais il faudrait redéployer toute la construction conceptuelle qui permet d'arriver à nos fins tout en ayant convenablement contourné la difficulté qui avait été soulevée par Spinoza, car cette difficulté, elle est là. Alors, même si ça ne plaît pas à regarder en face, elle est là, et il faut faire avec. Bon. Et on peut faire avec, et s'y retrouver à la fin des fins, puisque c'est ça qui compte. Donc voilà, on peut se priver d'une théorie de l'exploitation. on peut se priver d'une théorie de la justice, donc d'une forme de critique des inégalités, en apparence, et pourtant tout reconstruire à neuf, mais dans des termes conceptuels qui sont beaucoup plus satisfaisants, en tout cas du point de vue de l'esprit du théoricien. Évidemment, après, dans la pratique de l'intervention ou du discours politique, ça c'est autre chose. Vous n'avez pas commencé à arriver avec, vous voyez, tout votre bousin là. C'est... Mais bon, en tout cas, dans le plan de la théorie, voilà, il y a des choses qui sont possibles et qui tiennent. Alors, une substitution d'une ontologie des affects à l'ontologie de l'argent. Moi, je n'ai pas bien compris, hein, ontologie de l'argent. Pour moi, ça ne fait pas sens. D'ailleurs, du reste, ontologie des affects non plus. Enfin, les affects, c'est un terme conceptuel qui arrive après l'ontologie à proprement parler, hein, dans l'œuvre de Spinoza. L'ontologie, c'est l'ontologie de la substance divine, des attributs, des modes. Bon, ça, c'est la partie proprement ontologique. Les affects, ça vient après. Quant à ontologie de l'argent, mais je... Non, si Marx dit que si Marx parle de substance, c'est la substance du temps de travail abstrait comme substance de la valeur. Bon, l'argent, c'est l'une des formes de la valeur. Donc ça vient un cran plus loin, n'est-ce pas, dans l'élaboration théorique de Marx. Du reste, parce qu'en tout cas c'est peut-être là le point important. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut réduire une théorie de l'argent, une théorie de la monnaie, à une théorie des affects. Ça, oui. Ouais, ça, c'est très possible. Alors là, c'est un exercice auquel André Orléans, qui est un immense théoricien de la monnaie, et moi-même, nous étions livrés il y a déjà un peu plus d'une dizaine d'années. Et toujours pour faire jouer ce concept de l'autorité, puisque la question de la monnaie, c'est la question de l'acceptabilité, donc c'est la question du faire autorité du signe monétaire. Pourquoi un signe monétaire fait-il autorité? Et dans quelles conditions vient-il à voir son autorité s'effondrer? Hein? C'est le pouvoir du signe monétaire, quand il est installé, c'est le pouvoir de véridire la valeur économique sous l'espèce du nombre compté en unité monétaire. Bon, voilà. Alors ça, oui, on peut faire ça. Car comme toute forme de l'autorité, l'autorité du signe monétaire est en dernière analyse un certain investissement de l'affect commun au travers de formes institutionnelles complexes, hein, qui sont en gros celles de l'ordre monétaire, banque de second rang, banque centrale, etc., etc. De là, du coup, j'ai envie de passer à la bulle et à la migration des affects. Alors oui, c'est ça, parce que vous savez, la théorie économique orthodoxe appelle bulle l'écart entre le niveau des cours boursiers ou des prix des actifs financiers, plus exactement, et leur, ouvrez les guillemets, valeur fondamentale. Bon, là aussi, il faut que je fasse référence à André Orléans, hein, à qui je dois beaucoup en toutes ces matières. Ben, la valeur fondamentale, vous avez bien compris, hein, la valeur fondamentale des actifs financiers, ça connaît le même sort que la valeur tout court, hein, au terme de cette problématisation de la condition anarchique. La valeur fondamentale, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est vraiment, c'est une chimère substantialiste de la théorie économique orthodoxe, de la théorie de la finance contemporaine. Il y aurait une valeur fondamentale des actifs. Et puis des fois, on ne sait pas trop comment, des fois les prix s'en écarteraient. Ça fait des bulles. Et la crise, c'est la résorption violente de cet écart. Retour à la vérité de la valeur. Non, il n'y a pas de vérité de la valeur. Il n'y en a nulle part. La valeur financière... s'assimile en totalité au prix des actifs. Ce ne sont pas deux choses différentes. C'est-à-dire, il n'y a pas la valeur intrinsèque, objective, substantielle des choses que les prix auraient à exprimer dans un rapport de fidélité aussi grande que possible. Valeur et prix, c'est la même chose. Et c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est le même produit, c'est le produit de l'investissement du désir et des affects de la communauté financière dans un certain nombre d'actifs qui sont jugés désirables et puis qui cessent d'être désirables. Alors bon, oui, en effet, quand il y a une crise financière, qu'est-ce que c'est? Une crise financière, c'est une bifurcation dans la dynamique collective des actifs de la finance. C'est ça, une crise financière. Bon, donc c'est pas du tout la même chose que la résorption de l'écart du prix à la valeur. Ça n'a rigoureusement rien à voir. On ne sort pas du monde de la croyance, de l'opinion et des affects. Or, le fait que l'économie ait à voir avec, soit fondamentalement à faire d'autre chose que de croyance, d'opinion et d'affect, c'est vraiment la chose que, enfin, c'est vraiment la chose que la science économique veut mettre dans les têtes à toute force. Parce que c'est la chose grâce à laquelle elle estime pouvoir soutenir son rang de science scientifique. Alors là, il y a un point de renoncement que jamais elle ne passera. Je veux dire, même rendu au dernier degré du tourment, les économistes ne lâcheront pas là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ça le paradoxe, hein, économistes néoclassiques et économistes marxistes confondus sous ce rapport. Ils peuvent se déchirer sur toutes les autres questions, mais quant au sérieux de la valeur, ça au moins ils l'ont en commun. La valeur est une affaire de substance. Bon, non, ce que dit la théorie hétérodoxe de la valeur financière, celle qui est proposée par André Orléans, c'est tout le contraire. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand les courants de la potentia multitudinis financière désinvestissent une certaine classe d'actifs et qu'il se passe une crise dans ce compartiment des marchés? Bon, alors les affects migrent et cherchent quelque chose d'autre. Le quelque chose d'autre, ça a un nom hein, technique dans le langage de la finance, ça s'appelle la valeur refuge. Alors comme la finance parle anglais, on parle de « flight to quality ». L'envol vers la qualité. On fuit une certaine classe d'actifs qui est sinistrée et bah, on cherche où on va réinvestir le pognon. Parce qu'il n'est pas pensable qu'il demeure comme ça à l'état de cash dans vous voyez, passifs à rapporter 0%, même à se faire gratter par l'inflation. C'est impensable. Donc il faut qu'on lui trouve un emploi alternatif. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Alors évidemment, dans toutes les crises financières, le nom du jeu, c'est identifier la nouvelle classe d'actifs qui va être la destination du flight to quality. Alors en général, ce sont des titres souverains parce que ce sont des titres qu'on considère comme étant sans risque. Alors là, ce qui a fait la particularité de la crise financière de 2007-2009, c'est que la dégringolade a été telle que de proche en proche, elle a renversé jusque y compris des classes d'actifs qu'on croyait appartenir à la catégorie des sans-risque. Alors là, pardon, mais là, c'est là qu'il y a un vent de panique qui a commencé à souffler pour de bon, parce que si vous voulez, les masses de liquidités se sont retrouvées littéralement en déshérence, sans plus savoir où aller, sans plus aucun refuge à trouver. Ah là, ça, oui, là, c'est le beau bordel, oui, ça, c'est tout à fait certain. Et du reste, c'est un type de panique qu'on voit dans les crises monétaires également. La croyance commune a perdu foi dans le signe monétaire, ça fait l'hyperinflation allemande de 1923, mais elle se cherche à toute force un équivalent général de substitution. Oh, mais sauf que ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, un truc pareil. Puis c'est pas la même chose que dans les marchés financiers. Dans les marchés financiers, au moins, il y a une variété d'actifs. On peut se déplacer de l'une à l'autre, mais la monnaie, il n'y en a qu'une, par définition. Enfin, normalement, il n'y en a qu'une. C'est bien ça le problème, d'ailleurs. Au moment où il y a une crise financière et que la monnaie officielle est foutue par terre, la nécessité impérieuse où se trouvent les agents économiques d'identifier à nouveau un représentant de la valeur économique les conduit à investir tout et n'importe quoi. Il faut à toute force recréer une unité de compte. Mais c'est vrai pour tous les ordres de valeur. Lorsqu'un groupe approche du point où son ordre axiologique est ruiné, c'est une panique absolument innommable. Et on cherche à toute force à trouver des valeurs de raccroc, à trouver des ancrages de remplacement. Et n'importe quoi peut faire l'affaire. C'était ça d'ailleurs, c'était ça qui était extraordinaire dans la scène du roman La Toile. N'importe quoi peut faire l'affaire pour réancrer la valeur, parce que regarder dans les yeux la condition anarchique, c'est proprement insoutenable. C'est insoutenable. Donc dès qu'on s'approche du gouffre, le corps collectif va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'en éloigner à nouveau et se réancrer à quelque chose. Bon, alors c'est ça qui se passe dans les crises monétaires. Alors les crises monétaires, pendant l'hyperinflation allemande, c'était particulièrement spectaculaire. Hein. Les unités de compte les plus fantaisistes surgissaient. Mais je veux dire, une unité de compte fantaisiste, ça peut marcher si c'est convenablement investi par la collectivité. Donc on comptait en cigarettes, on comptait en tonnes de beurre, on comptait enfin n'importe quoi, vous voyez. Mais après tout, hein, c'est pas plus con que de compter en billets de papier avec de l'encre dessus, hein, je vous signale. Ou en petit cercle métallique avec une effigie. C'est ni plus ni moins. C'est toujours la même chose. C'est la question de l'intensité de la croyance collective. C'est la question de l'intensité de l'investissement affectif. Voilà, c'est ça.
Alors, le temps est déjà un peu coulé. On va en prendre une deuxième. Ben non, bah, c'est bien. C'est juste qu'on peut prendre une deuxième salve de questions, mais ce sera pas plus. Donc, avez-vous. Attendez. Une là. Et il y avait un monsieur qui était derrière. Qui est... Non. Ok.
Donc, alors, 1, 2, 3, 4.
Oui, moi j'aimerais demander si par hasard il y a une influence aussi d'un philosophe néerlandais qui était protégé de Hannah Arendt, qui s'appelle Rainer Schurman. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les principes d'anarchie » et justement il fait le même parcours un peu comme anarchie sans arché et sans telos. Et puis il est quelqu'un qui essaye de trouver dans ses principes un sujet politique éthique qui arriverait à donner une réponse à la question que puis-je faire face à la violence exercée par les dispositifs. Il fait surtout une relation avec Heidegger et Foucault, mais bon, c'est un philosophe qui a aussi pas mal travaillé ce principe.
Alors, j'ai pas bien compris ce que tu entends par principe anarchique. Est-ce que c'est l'irrationalité collective, le comportement, les affects étant quelque chose d'irrationnel? Parce que il me semble que ta manière de voir le fonctionnement de la société et de l'économie finalement nous met dans une espèce de devant un grand mystère, des mécanismes très compliqués, microscopiques, à l'échelle cosmique et à l'échelle microscopique se jouent, et finalement on ne sait pas très bien comment agir et que comprendre. Et moi il me semble quand même que ça ressemble, par moments les affects ressemblent à quand on essaye de faire du couscous et qu'on sait pas le faire, on fait des gros grumeaux, des petits, on n'arrive pas à faire des petits grains. Et c'est pas homogène. Et comment se forment les affects? Il y a des affects qui deviennent très gros, qui deviennent puissants. Alors c'est une puissance qui est pas due à leur taille, mais qui est due finalement à une force qu'ils ont pour d'autres raisons. Il me semble que quand même, si les affects, c'est l'irrationalité de l'organisation de la vie sociale, il me semble que dans Marx, l'idée de... Je pense que n'importe quel maître d'esclaves, même d'avant les Romains ou les Grecs, savait très bien que plus il avait d'esclaves, plus il allait être riche. Et l'idée que chacun de ses employés esclaves produisait de la valeur qui allait l'enrichir et lui donner aussi de la puissance, il n'avait pas besoin de Marx pour trouver ça, on le sait. N'importe quel patron d'une entreprise sait qu'en gros, il va avoir plus de revenus s'il a plus d'employés. Et je répondrai à tout ça. Il y a autre chose aussi dont tu n'as pas parlé, finalement, je dirais, c'est de la lutte des classes, qui est quand même quelque chose de très concret et qui permet de comprendre l'actualité et l'histoire d'une manière assez stupéfiante. Et je reprendrai, là peut-être pour finir, je ne sais pas, mais un titre d'un de tes articles dans le Nouvel Observateur, dans le monde diplomatique, qui était au moment de la loi travail, où tu réclamais la démocratie partout, c'est-à-dire pas seulement la démocratie, qui est certainement pas la démocratie représentative, parce que la démocratie représentative est une escroquerie de la démocratie qui serait une organisation d'un groupe ou d'une société dans laquelle chacun pourrait se mêler de tout ce qui le concerne et même de ce qui ne le concerne pas, c'est-à-dire que la démocratie représentative est disqualifiée comme démocratie, il n'y aurait qu'une forme de démocratie directe et en plus avec mandat impératif. Et j'ai appris, je ne sais pas si c'est dans cet article-là du Monde diplomatique, que la démocratie à mandat impératif, la représentation à mandat impératif en France est anticonstitutionnelle. Alors, je pense que quelque chose qui permettrait de mettre un peu de clarté, il me semble, c'est tout simplement de vouloir la démocratie partout. Et la réelle démocratie, c'est une démocratie qui a l'air bien bête, égalité, liberté et fraternité, mais une société dans laquelle on se respecterait les uns les autres, ou une société, ça, là je reprends, je sais plus qui a dit ça un jour, il y a pas très longtemps, ou Pierre Rosanvallon quand il dit une société dans laquelle chacun veillerait sur chacun des autres, il me semble que c'est plus clair et plus puissant.
Alors moi, ce sera plus court. J'aimerais bien parler de l'Italie, mais en fait, on va pas le faire. En fait, c'est une question très personnelle. Vous utilisez pas mal le terme d'anthropologie, et donc je comprends ça comme théorie générale de l'homme ou quelque chose s'en approchant. Bon, moi, je fais de l'anthropo à l'université, et moi, quels seraient les éléments pour vous qui justifieraient le fait qu'une l'ontoanthropologie spinoziste soit aurait réussi à faire à répondre universellement à cette question de l'homme, en fait. Voilà, tout simplement.
Donc ça sera court aussi. Et c'était plutôt par rapport au terme de valeur. C'est le terme qui pose assez problème. Finalement, on en a plus parlé de ce terme même que du terme d'anarchie. Et donc je me demande pourquoi vous avez choisi ce terme, finalement. Parce que vous avez parlé du fait que ce sont des valeurs qui n'ont pas de valeur, donc en reprenant Spinoza. Mais donc ça me pose question parce que moi je pensais par exemple au terme de le fait que les hommes se relient, fassent groupe autour de mythes communs et des récits communs. Mais j'ai l'impression que le terme de valeur, vous l'avez choisi peut-être parce qu'il est plus corporel, justement. Je ne sais pas trop, je me demandais.
Alors, la réponse à la première question aussi va être courte. C'est un peu dur hein, d'être pris en flagrant délit d'ignorance, quand même, parce que je ne le connais pas, votre bonhomme. Donc, je n'ai pas bien entendu son nom, d'ailleurs. Il faudra que vous me le redonniez, parce que, comme ça, je...
Oui.
En plus, il y en a d'autres qui le connaissent. Je vous remercie. Je sortirai, mais ça, de toute façon, c'est toujours hein, ça, les rencontres. On sort moins idiot qu'on y rentre. Hein. Donc, c'est bon. Alors, quant à la longue question, oui, ma réponse va être un peu courte quand même. Le principe anarchique n'a pas à voir avec la question de l'irrationalité collective en tant que la rationalité s'opposerait aux affects ou quelque chose comme ça. L'un des avantages du spinozisme, c'est qu'il nous permet de défaire cette antinomie qui a la vie dure entre la rationalité et les passions, ou la rationalité et les affects, les affects passifs. Donc c'est vraiment pas une bonne antinomie du tout, car en réalité, alors ce qu'on appelle rationalité par rapport à la raison, par différence avec la raison, enfin la raison au sens de Spinoza, la raison au sens de la philosophie classique, etc. La rationalité, ça n'est pas autre chose que la poursuite méthodique du désir. C'est ça, hein, la rationalité. C'est l'agencement ordonné des moyens aux fins. Bon. Donc déjà, le simple fait de le dire comme ça vous montre bien que l'antinomie est complètement controuvée. La rationalité demeure un exercice à comprendre dans les coordonnées du désir et de ses objets à poursuivre, donc dans les coordonnées des passions. Il n'y a pas d'antinomie. Il n'y en a pas. Il n'y en a doublement pas parce que l'acquisition de la rationalité elle-même se fait dans des environnements passionnels. Alors là, il faudrait parler de Norbert Elias et de ses ouvrages sur la civilisation des mœurs, la dynamique de l'Occident, etc., qui sont des ouvrages fascinants de ce point de vue, qui montrent à quel point, en définitive, la rationalité fait l'objet d'un apprentissage passionnel. Donc voilà, l'antinomie de la rationalité des affects, pour moi, n'a pas d'intérêt, elle ne tient pas. Elle n'a d'intérêt que dans un certain discours polémique qui réserve à certains groupes sociaux le privilège de, ouvrez les guillemets, la rationalité, et qui abandonne le désordre des passions au bas peuple. En gros, c'est ça. Hein. C'est comme ça que c'est fait pour jouer, ce truc-là. Donc, c'est vraiment pas... C'est pas sensationnel. Moi... Pardon ?
Selon l'époque.
Oui. Selon l'époque.
Oui, c'est romantique, c'était l'aristocratie qui était passionnelle.
Oui, voilà. Bah, très bien. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Oui. Parfait. Et alors moi, j'aime bien, j'aime bien votre théorie du couscous foiré. Oui, c'est ça. Il y a des petits grains, il y a des grumeaux. Bon. Et quant à la lutte des classes et la démocratie partout, ben, vous comprenez que je ne fais pas une théorie totale de tout non plus dans ce livre. Donc, il y a des choses forcément dont j'ai pas parlé. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. On pourrait en citer des plus drôles, mais voilà. Donc, ça ne parle pas de lutte des classes, mais je soutiens quand même que tout ça aide à en parler d'un certain point de vue. Vous voyez, parce que la lutte des classes, ça a quand même à voir. C'est une axiomachie, la lutte des classes. Hein. Ça passe par des positions de valeurs politiques antagonistes. Donc ça se joue aux affects quand même cette histoire. Bon, voilà. Donc j'en dis pas davantage, sinon que j'ai presque été tenté de prendre pour un compliment le fait d'être moins clair que Rosan Vallon. Bon, mais ça c'est une coquetterie au passage. Alors, sur l'anthropologie, alors oui, c'est vraiment une question, c'est une question très profonde. Est-ce que l'ontoanthropologie de Spinoza peut être dite universelle ? Oui, dans la mesure où elle ne dit rien de particulier. C'est ça, la réponse complète. Hein. Elle ne dit rien de particulier. Et on ne peut rien lui faire dire de particulier. En tant que tel. Alors, moi, j'ai eu tous ces débats sur la nature humaine. Vous savez, la nature humaine, c'est le concept épouvantail des sciences sociales. On peut comprendre, hein, d'un certain point de vue. On peut comprendre. Je veux dire, de toute manière, on sait ce que ça a donné les entreprises discursives de naturalisation dans les sciences sociales, dans le discours politique, etc. Plus souvent qu'à son tour, ça a donné lieu à des monstres. Alors, c'est très difficile dans ces conditions. Je veux dire, vous voyez, avec un historique aussi chargé. C'est très difficile de défendre le naturalisme intégral de Spinoza, qui fait toujours l'objet de malentendus à n'en plus finir. Le naturalisme intégral chez Spinoza, c'est simplement l'ordre du déterminisme. C'est-à-dire le fait que dans toutes les régions de la nature règne le principe de l'enchaînement des causes et des effets, et que dans cet ensemble-là de la nature, l'homme, dit Spinoza, n'est pas comme un empire dans un empire. Voilà. Bon. Alors maintenant, qu'on le veuille ou non, la catégorie de nature humaine se trouve engagée dans les discours des sciences sociales, le plus souvent à titre impensé, à titre irréfléchi. Mais quand même, c'est l'exemple classique. Je veux dire, lorsque la théorie économique se construit sur la figure de l'homo economicus, que fait-elle sinon une hypothèse de nature humaine ? Alors, les motiens de l'homo donateur font la même chose, etc., etc. Donc, le mieux qu'on ait à faire quand même, c'est à ouvrir les yeux, à voir ce qu'on fait et ce qu'on dit, et à le réfléchir, c'est-à-dire à réfléchir ce que nous engageons, qui est de l'ordre d'une théorie implicite de la nature humaine, dans les constructions des sciences sociales. Et Spinoza intervient dans cette histoire. Il intervient de quelle manière ? Il intervient en proposant, en rendant possible de formuler, c'est très compliqué, hein, parce que donc ce que je vais dire est une espèce de solécisme au regard de la glose spinozienne rigoureuse, car celle-ci vous dirait Spinoza ne pose contourne en permanence le problème de l'essence humaine, le problème de l'essence de l'homme. Il n'y a pas d'essence de l'homme chez Spinoza. C'est un vrai paradoxe. Hein. Il n'arrête pas de parler de l'homme, mais il n'y a pas d'essence de l'homme. Il y a des essences singulières de Pierre ou Paul, il y a des essences singulières des hommes en particulier, mais il n'y a pas d'essence de l'homme. Bon. Alors, dire quand même que Spinoza permet de poser quelques énoncés sur la nature humaine, c'est déjà se mettre dans une sorte de porte-à-faux, mais qu'on peut assumer en disant quoi ? En disant ceci. La nature humaine chez Spinoza, c'est l'ensemble des mécanismes passionnels élémentaires qui sont exposés dans la partie 3 et la première partie de la partie 4 de l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire des mécanismes élémentaires ? Ça veut dire des mécanismes qui sont par eux-mêmes insusceptibles d'être mis en rapport avec quelques comportements humains empiriques donnés. Sachant que nous avons là un ensemble d'éléments dont la combinatoire est suffisamment puissante pour reconstituer ad libitum toutes les configurations humaines particulières. Mais tout ça réside dans la combinatoire, dans l'infinité quasiment de ses possibilités. Donc la nature humaine ne dit rien chez Spinoza, mais elle permet de dire tout. Voilà, ça serait ça, hein, si vous voulez, ma solution de synthèse. Donc il y a une nature humaine chez Spinoza, mais mille façons d'être homme. Mille façons qui sont réengendrables par le jeu de cette combinatoire opérée à partir des énoncés élémentaires. C'est la charge de signification théorique du mot élémentaire est là, hein, n'est-ce pas ? Ce qui est élémentaire, c'est ça ne peut pas espérer être mis directement en rapport avec un comportement empirique particulier. Des fois, ça marche. Des fois, il y a des mécanismes. Par exemple, l'imitation des affects. Alors, l'imitation des affects, ça vous parle tout de suite. Bon, ça, bah oui, j'ai envie du truc qui est dans l'assiette du voisin, j'ai envie de... Bon, c'est facile. Mais des fois, l'imitation des affects joue à l'envers. Alors, par exemple, ça peut se réintégrer dans la sociologie de la distinction de Bourdieu. Vous savez ce que disait Bourdieu sur le goût. Le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Bon, voilà. Donc, vous allez imiter, mais négativement. Parce que l'agent à imiter vous est tellement ridicule, méprisable, haïssable, etc., que précisément vous allez faire le contraire. Mais ça n'est jamais qu'une modulation du mécanisme élémentaire de l'imitation. Vous voyez ? Alors une modulation qui peut le renverser en son exact contraire, bien sûr. Et ça, la combinatoire est capable de tout. Elle est capable de tout. Il y a cette phrase extraordinaire chez Pascal. On n'a pas beaucoup parlé de Pascal, c'est dommage, hein. Mais il y a, bah oui, parce que la condition anarchique est un, c'est aussi une grande rencontre entre Spinoza et Pascal, hein. Pascal est extrêmement spinozien, enfin, Pascal, j'allais dire spinozien ou Spinoza est pascalien, enfin, à certains égards, hein, vraiment. Alors évidemment, ils ont leur point de différence, ça, si vous voulez. Pascal, il voit la condition anarchique avec la même profondeur que Spinoza. Dire la valeur, ça peut être n'importe quoi. Précisément, il dit ça. Il dit le viol, l'inceste, le larcin, le parricide, tous ont eu leur place entre les vertus. Ouais, c'est ça qui est. C'est une phrase extrêmement, extrêmement puissante et extrêmement déstabilisante. C'est-à-dire les choses qui nous paraissent à nous les plus immédiatement haïssables ont été élues comme des choses vertueuses, ou sont susceptibles d'être élues comme des choses vertueuses dans des sociétés passées ou des sociétés à venir. Et c'est vraiment ça le fond de la condition anarchique. C'est que n'importe quoi peut être investi comme faisant valeur. Alors là, du coup, la transition est faite vers votre question. Alors, vous avez raison, mais là, j'aurais pu emprunter le chemin des mythes, de la production des mythèmes, etc., etc., qui est un problème connexe, d'ailleurs. Alors, moi, je me suis laissé guider par le mot valeur, d'abord parce que j'avais réfléchi à ça comme l'économiste que j'étais, il y a quelque temps, donc, à propos de la valeur financière, puis de la monnaie comme opérateur de la valeur économique, et puis, finalement, en croisant cette phrase de Durkheim qui m'a déclenché, qu'on peut lire à la fin de cet ouvrage qui s'appelle Sociologie et philosophie, où Durkheim dit quelque chose comme l'économie, le droit, l'esthétique, la morale ne sont pas autre chose que des systèmes de valeurs. Vous voyez, c'est juste une phrase, mais ça fait un programme de recherche. Alors un programme de recherche que Durkheim n'a pas eu le temps de développer complètement, et que précisément moi je me suis proposé de faire avancer, mais par les moyens de la conceptualité spinoziste. Et en effet, parler de retenir la catégorie de valeur, c'était une manière de rendre hommage à Durkheim et en quelque sorte à son programme de refondation des sciences sociales, ou peut-être faudrait-il dire de la science sociale, autour de cette question structurante de la valeur. Et d'une certaine manière, de prendre au sérieux cette homonymie de la valeur. Parce que avouez quand même que c'est frappant, cette histoire. On utilise le même mot pour parler de choses qui nous semblent aussi radicalement différentes, hétérogènes, parfois même contradictoires. Bon, c'est un lieu commun, de mettre en opposition la valeur morale et la valeur économique, ou la valeur esthétique et la valeur économique. Je parle d'avant la marchandisation de l'art contemporain, hein, etc. Voilà. Bon, mais pourtant, c'est le même mot. Bah, il doit y avoir un invariant quelque part. Et c'est cet invariant que je cherchais à dégager. Donc moi, ce que je cherchais à faire, c'était vraiment ça, une théorie générale, c'est-à-dire transversale de la valeur, qui passe à travers tous les ordres de valeur, si différents soient-ils en apparence.
Eh ben, on va s'arrêter là. Oh. Et là, on va prendre une question. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus. Les livres de Monsieur Lordon, bien sûr, sont là. Ils sont à côté de la caisse, si vous voulez. Et aussi les romans dont il a parlé. Voilà. Je voulais dire un dernier mot.
Juste une chose, je veux m'excuser par anticipation. Je ne suis pas un grand praticien de la dédicace. Voilà. Je vous le dis parce que, bon, alors, si vous me coincez derrière un poteau... ou dans les poubelles et tout, il y a une situation humaine qui se crée, hein, donc je m'y rendrai, mais voilà, je suis pas à l'aise avec ça, je suis désolé.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah oui, j'ai oublié, il y a un petit pot là-bas, si vous voulez boire un verre, des cacahuètes, des chips et tout ça, voilà.
Non mais j'abuse pas. Non, c'est parfait. Oui.